Hélène, son histoire de vie, réalisée par Claude Fabry, son passeur de vécu. Partie 3. Hélène, la vie en famille, enfant et adolescente.
De l'ambiance générale. J'ai donc eu, après moi, 4 ans après moi, une sœur qui est née. Donc la famille était constituée. Alors mon frère, qui était beaucoup plus âgé et qui lui était un adulte déjà accompli d'ailleurs, qui est parti faire sa vie puisqu'il s'est marié et il a eu des enfants, donc il a quitté la famille. La famille, dans ma préadolescence et jusqu'à ma majorité, c'était papa, maman, ma sœur et moi. Alors, l'éducation, c'est ce que papa avait coutume d'appeler, c'est une éducation vieille France. C'est-à-dire que c'était donc une éducation à la française d'une famille catholique, forcément pratiquante mais catholique. Et pourquoi vieille France ? Parce que les Français qui étaient en Afrique du Nord, ils étaient plus royalistes que le roi, c'est-à-dire qu'ils étaient encore plus sévères que les familles en métropole. Alors, la règle, c'était la règle. Et la famille était ainsi constituée. Papa, c'était l'homme de la famille. Donc, il est devenu d'ailleurs plus tard, en vieillissant, le patriarche. Donc, quand il avait dit quelque chose, c'était lui qui avait raison, n'est-ce pas ?
Prenons une journée type pour schématiser un peu les choses.
Papa, c'était le premier levé, toujours très, très ponctuel à son travail. Et j'ai jamais vu papa faire une grasse matinée, par exemple. Il était levé aux aurores, couché tard. Donc, papa, lui, prenait son petit déjeuner, puis hop, il était au travail, puisqu'il avait sa propre entreprise. Nous habitions, l'appartement était au-dessus de l'entreprise, si j'ose dire.
Il y avait des salariés ?
Oui, des salariés, mais il y en a 5-6. Il y avait des apprentis, il y avait tout ça. Frère qui a travaillé avec papa pendant un temps jusqu'à ce que lui-même parte, venu en France, travailler dans les mines, dans la région de Metz, loin d'ingénieur à l'époque. Donc il est venu et il a fait sa vie là. Donc comme nous étions des filles, alors là je passe de papa à maman, pour maman, qui elle aussi avait reçu une éducation extrêmement stricte, nous devions être de futures bonnes mères, de futures bonnes épouses. Nous devions tout savoir faire de nos 10 doigts dans la maison, les tâches ménagères, savoir coudre, savoir tricoter, savoir préparer les repas, évidemment, entretenir une maison. Et de surcroît, nous devions parler correctement, écrire et calculer correctement, plus même, enfin, il fallait être parfaite, quoi. Bon, donc, il faut imaginer une éducation avec de tels critères de réussite qui font que, c'était très sévère. Bon, avec le recul, on peut le dire. Le ressenti, disons qu'on regimbait quelquefois. C'était quand même un peu dur, on n'avait pas droit à grand-chose, hein. Mais bon, comme par ailleurs on était libre, on pouvait sortir volontiers, rencontrer les copines, les petits copains, on pouvait aller à la mer, on pouvait aller vraiment... Juste un exemple, comme le contexte d'éducation catholique, il y avait le fameux patronage. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, le patronage, c'était une organisation comme un centre social. Sauf que c'était monsieur le curé qui s'occupait de ça, quoi. Et donc, on faisait toutes sortes de choses, des jeux collectifs, toutes sortes d'activités. On avait la possibilité d'y aller, hein. C'est aucune restriction. Mais par exemple, quand c'était la kermesse à la ville, ou ce qu'on appelle ici la Ducasse, les parents ne nous donnaient pas l'autorisation. Les manèges, tout ça, ils ne nous voyaient pas, on n'avait pas la liberté d'aller dans ces trucs-là. Bon, et puis, surtout que, de surcroît, c'était payant. Donc, l'argent de poche, ça n'existait pas. En tout cas, moi, je n'ai pas connu ça. Donc, les enfants avec de l'argent de poche, à l'époque de mon enfance, ça n'existait pas. Que si nos parents ne nous emmenait pas au manège ou à la kermesse ou des choses comme ça, on n'avait pas le droit d'y aller, ça c'est clair. Évidemment, ma sœur et moi, nous faisions partie de la chorale, parce que chanter dans la famille, c'était quelque chose aussi d'assez courant. Donc, tout naturellement, nous allions à la chorale, chanter toutes sortes de choses, hein, pas seulement que des chants religieux, hein, il y avait des tas d'autres activités qui nécessitaient de chanter. Il y avait aussi des copains ou des copines qui avaient des instruments de musique, donc on passait de très très bons moments, mais les horaires étaient très stricts.
Et la messe était obligatoire
le
dimanche.
La messe tous les dimanches. Maman connaissait les horaires de la messe. Il n'était pas question d'avoir 10 minutes de retard. Hein. À la sortie de la messe, il fallait rentrer. Parce qu'une coutume qui existait en Algérie, qu'on retrouve volontiers dans les grandes villes espagnoles, par exemple, c'est le système de la Rambla. Et il y avait une grande avenue, qui s'appelait l'avenue Gustave Jobert, d'ailleurs, où les gens qui se promenaient allaient et venaient sur l'avenue. Ils se rencontraient, ils parlaient, ils s'arrêtaient. Les messieurs allaient boire un verre dans un café. Pas les dames, évidemment. Et nous, les jeunes... Et surtout les jeunes filles, enfin les préadolescentes, on aurait bien aimé pouvoir se promener. Pour les parents, c'était vraiment hors de question pour les filles. Les filles de bonne famille, ça ne se promenait pas sur l'avenue. Donc à la sortie de la messe, c'était clair, direction la maison. Et j'ai souvenir d'avoir bavardé un petit peu avec des amis sur le chemin et de voir maman arriver qui venait au-devant de nous, nous chercher pour savoir où nous étions. Donc voilà. Alors, comme je le disais, pas d'argent de poche, donc en dehors du patronage et des activités qui étaient proposées par l'école, rien. C'était clair, on n'y avait pas accès. J'ai souvenir d'ailleurs que, par exemple, tous mes oncles, tantes et tout ça, tous les adultes, c'était absolument nécessaire. On vous voyait nos tantes, oncles et autres cousins. Les seuls que l'on pouvait tutoyer, c'était les enfants de notre âge. Tante Jeanne, oncle Édouard, très, très cérémonieux. Par exemple, un moment très fort où on rencontrait tout le monde, c'était à la Toussaint. Pour moi, c'est un souvenir. Oh, retrouver évidemment les cousins, les cousines, puisqu'on allait sur la tombe de gens qu'on ne connaissait pas. Parce que moi, je n'ai pas connu mes grands-parents alsaciens, puisqu'ils étaient en Alsace, et ma grand-mère d'Afrique du Nord, je l'ai connue que dans ma toute petite enfance. Donc, je n'ai pas vraiment de souvenirs. C'était déjà, pour moi, une dame extrêmement âgée. Donc, ce ne sont pas vraiment de bons souvenirs. Le seul qui sortait un peu du lot, c'était le fameux oncle Édouard, qui, lui, qui était le bon campagnard. Il faisait un peu voler en éclats toutes ces choses-là. Il était plus chaleureux. Quand oncle Édouard venait à la maison, il y avait une ambiance plus détendue, moins obséquieuse. Bon. Mais ça, ça venait de papa. Hein. Alors... Peut-être que les cousins étaient comme ça, mais ça, ça venait de papa. Pour lui, c'était très important, c'est la relation familiale. Je ne sais pas d'où il tenait ça. Les enfants n'avaient pas le droit de parler, évidemment. Bon, c'est sûr, hein, c'est comme à table. Si on voulait dire un mot, il fallait demander l'autorisation. Maman allait au marché de bonne heure tous les matins. La nourriture qu'on consommait était toute du jour et cuisinée à la maison. Et ça, ça m'est resté. Mais c'était extrêmement élaboré parce que papa avait un métier aussi extrêmement physique. Il n'était pas question de faire du régime ou des choses comme ça. Mais on ne nous demandait pas notre avis pour les menus, évidemment. Donc, on mangeait ce que la maîtresse de maison posait sur la table. Et c'était bien équilibré. Et c'était maman qui servait. Une quantité raisonnable, d'abord papa, évidemment, et ensuite les enfants, elle en dernier, bref. Et par exemple, on voulait du pain, on demandait du pain, elle coupait une tranche de pain, et jamais, jamais je n'ai vu dans ma famille quelqu'un laisser un morceau de pain à côté de son assiette. Alors, si on n'aimait pas, on ne disait rien, on mangeait et c'est tout, sans commentaire. Et si éventuellement on en voulait plus, on pouvait demander un petit peu plus. On en avait. J'ai toujours entendu dire que la bouillabaisse de maman, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je détestais la bouillabaisse. L'odeur du poisson, vraiment, je n'aimais pas. Mais c'était comme ça. Le jour où il y avait une bouillabaisse, Moi, je savais que c'était une pilule à avaler. Je suppliais maman le plus silencieusement possible qu'elle ne m'en donne pas beaucoup. Petite part, elle le savait. Mais bon, c'est tout, il fallait que je m'aille. Et il était hors de question d'avoir quelque chose en remplacement. Donc c'était ça ou rien. Quand papa avait fini son repas, il avait toujours un petit temps où il se reposait. Je ne sais pas s'il dormait vraiment, mais je sais qu'il allait s'allonger un petit peu avant de reprendre son travail. Mais à mon avis, ça ne devait pas être une sieste parce que ça ne durait pas suffisamment longtemps pour ça. Mmh. Bref. Donc, je le revois encore poser sa serviette à côté de son assiette et il se levait. Bien sûr, les enfants ne se seraient pas levés avant le départ de papa. Maman qui faisait la vaisselle et nous deux qui essuyons la vaisselle. J'ai absolument aucun mauvais sentiment par rapport à ça. J'ai gardé cette façon de faire, de ranger la vaisselle quand je débarrasse ma table, les couverts ensemble, les verres ensemble, enfin bon. Mais j'aime faire la vaisselle, j'aime essuyer la vaisselle, ça ne me pose pas de problème, vraiment. J'aimais beaucoup ça, le sport. On avait deux stades, pas très loin de chez nous, et on allait au stade. Mais c'était en lien avec l'école, ça. Hein. J'ai fait beaucoup d'athlétisme, et on pouvait aller au stade tous les jours si on voulait. On avait une carte qui nous était délivrée par l'école. Et à la plage, moi j'ai toujours connu ça, de jouer au volley sur la plage. On faisait des équipes spontanées comme... On se faisait des parties extraordinaires. Ça pouvait durer tout l'après-midi si on voulait. Hein. Donc ça, c'était les activités de plage. On nageait, bien entendu. Mais après, dans le cadre du patronage aussi, on se faisait des petites compétitions entre équipes, des choses comme ça. On dansait, on chantait. J'ai des souvenirs de baby-foot, par exemple. Ça, d'accord. C'était un peu plus tard, évidemment. Vraiment enthousiasmante, quoi. C'est ça aussi qui est extraordinaire et qui m'a beaucoup surprise quand je suis arrivée en France, c'est que moi, de toute petite enfance, j'ai toujours connu la mixité. Et c'est quand je suis arrivée en France que je me suis retrouvée à l'école normale de Nancy, où il y avait l'école normale de filles, l'école normale de garçons, et qu'il était extrêmement mal vu que les filles soient vues avec des garçons, c'était quelque chose qui m'a énormément surprise.
À suivre, partie 4, Hélène, sa vie d'adulte avant de partir de la maison familiale.